L'émission Prière inspirée vous est présentée par EMCI TV. Vivez des moments forts dans la parole et dans la prière avec Jérémy Sordrill.
Bonjour et bienvenue dans cette maison de prière. Je suis heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, nous sommes encore avec l'évangéliste Franck Alexandre dans cette cinquième journée.
Bonjour Jérémy.
On est honoré de t'avoir dans cette émission Prière inspirée. Tu as été jusqu'ici et tu seras encore aujourd'hui une bénédiction.
Merci.
Pour beaucoup de personnes. Et je crois que plusieurs ont accepté le Seigneur cette semaine, ont été guéris, délivrés aussi de mauvais esprits. Et je voudrais vraiment vous encourager à témoigner, à nous témoigner ce que vous avez vécu dans nos émissions Prières inspirées. C'est toujours très encourageant. Premièrement, c'est sûr pour nous, mais aussi certainement pour ceux qui écoutent et qui passent par la même situation que vous et qui peuvent se dire, waouh, si cette personne est passée par là et qu'elle en est sortie par la puissance de Dieu, alors certainement, moi aussi qui écoute ce témoignage et qui vit cette situation, le Seigneur va m'en délivrer. Et très souvent, le simple fait de témoigner, même pendant que je lis les témoignages, des gens eux-mêmes sont en train de vivre des guérisons, des délivrances, sans même qu'on ait besoin de prier pour eux. Il ne faut vraiment pas dévaluer, sous-estimer la puissance de votre témoignage. C'est important. Alors, si vous avez été touché cette semaine, vous pouvez écrire à prière@emcitv.com. On se fera un plaisir de partager ce que vous avez vécu dans cette émission Prière inspirée. Aujourd'hui, on va parler avec toi de vision, de destinée.
Oui.
On va continuer à parler de cette destinée en Jésus-Christ. Et je vais partager un témoignage. Une personne qui écrit, j'aimerais donner mon témoignage. Lors d'une semaine de prière avec le pasteur Daniel Ali Mbenza, le pasteur Jérémy a prié pour ceux qui voulaient recevoir le don de guérison. Il a demandé au cours de la prière aux participants de joindre les paumes des mains. C'est ce que j'ai fait. Et alors j'ai été saisi par une puissante énergie qui a secoué avec force mes deux bras pendant quelques secondes. Juste après la prière, j'ai entendu une voix me dire « Je t'ai donné la puissance pour guérir. Va et guéris les malades. » Quelques jours après, la même voix me demande de vous écrire afin de donner mon témoignage. Et en juillet 2018, j'ai été saisi d'un mal de ventre. J'ai décidé alors de mettre en application la puissance de guérison que j'ai reçue. Et j'ai donc procédé à la prière avec l'imposition des deux mains sur ma tête. Au cours de la prière, le Saint-Esprit m'a demandé de retirer ma main droite sur ma tête et de la placer sur mon ventre, ce que je fis. Et à la fin de la prière, mon mal avait disparu, j'ai été guéri. En même temps, j'ai été surpris par le résultat. Gloire à Dieu. J'aime toujours lire les témoignages des gens, leur vocabulaire, leur expérience, et c'est toujours vraiment très, très... C'est super. Gloire à Dieu, on remercie le Seigneur. Et on croit qu'effectivement, Dieu répond à la prière.
Oui.
Et il donne des dons. Et c'est vraiment merveilleux de pouvoir prier pour les autres, mais aussi pour nous.
Oui.
Je crois que dans ton ministère, tu as vu beaucoup de guérisons.
C'est vrai. Jésus est toujours le même.
Mm.
Donc, l'Écriture le déclare. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Il n'a pas changé. Donc, il continue d'accomplir toujours des guérisons.
Amen.
C'est le même. Et on en voit dans toutes nos missions.
Il y a une question qui me vient comme ça, là. Mais qu'est-ce que ça fait de voir un aveugle voir?
Alors, parfois, on participe à la guérison de l'aveugle.
Mm.
Il m'est arrivé de commander. Je me souviens d'une campagne en Uruguay. J'étais jeune prédicateur dans la trentaine. Et j'étais en train de découvrir les dons de guérison. J'étais en train d'apprendre comment opérer avec les dons de guérison. Et j'étais dans la ville de Paysandú. Et je m'avance au pupitre, j'entre dans ma prédication. Et pendant le message, je reçois cette parole, une parole forte qui vient dans mon cœur. Et cette parole, c'est « Aveugle, ouvre tes yeux ». Immédiatement, je l'ai chassé. J'ai dit « Non ». J'étais dans ma prédication, cette parole arrivait. Je dis « Franck, arrête d'avoir des idées pareilles, chasse ça tout de suite ». J'essayais de renvoyer cette parole derrière, mais c'était comme un feu brûlant. C'était vraiment un feu qui embrasait mon cœur, mon âme. Aveugle, ouvre tes yeux, aveugle. C'était tellement fort que quand je suis arrivé pratiquement à la fin de ma prédication, j'ai marqué une pause et j'ai crié dans le stade, aveugle, ouvre tes yeux. Et là, tu ne peux pas imaginer, Jérémy, derrière, ce qui s'est passé dans mon cœur. J'ai prié, j'ai espéré qu'il y ait au moins un aveugle dans le stade. J'ai dit, ça, sinon, c'est la fin de mon ministère. C'est important parce qu'on prend des risques quand on exerce les dons spirituels. C'est vraiment des risques. Mais c'était de Dieu, car tout à coup, une femme a crié et elle a commencé à dévaler les gradins en courant avec une demoiselle qui courait derrière elle. C'était sa fille qui avait conduit sa maman aveugle sur le lieu d'évangélisation. Et elle passe, elle vient sur le devant. Les pasteurs, le coordinateur l'a conduit vers le micro. La femme était toute tremblante. Elle était vraiment dans une joie tellement importante. Et puis elle tient le micro, elle explique, elle dit « Ma fille m'a conduit au stade, j'étais aveugle. » Et quand l'évangéliste a proclamé cette parole « Aveugle, ouvre tes yeux !» Elle dit « Un éclair a frappé mes yeux et j'ai recouvré la vue. » Et puis un autre cas, c'était en Belgique, où là, je n'ai pas participé à la guérison de l'aveugle, mais j'ai fini de prêcher, je lance l'appel au salut, je prie pour ceux qui font la paix avec Dieu. Ensuite, j'invite les malades à s'approcher sur le devant, quelques-uns viennent sur l'avant, et puis je vois un papy qui était là en face de moi. Donc je m'approche de lui, l'homme me regardait, et je lui dis « Bonjour monsieur, quel est votre besoin ?» Il me dit « Je vous vois. » Et moi je le regarde, je lui dis « Mais moi aussi je vous vois monsieur. » En fait, cet homme venait d'être guéri de cécité, et il me dit « Mais je vous vois, je vous dis que je vous vois. » Et il se retourne et dit « Mais je vous vois tous. » Il avait été guéri par la main divine. Donc ce que ça fait, ça produit d'immenses émotions. Chez le prédicateur, mais surtout ça transforme la vie des gens. Parce qu'on pense à tous ceux qui dans la Bible étaient guéris de cécité, de surdité, ils pouvaient entrevoir une réinsertion sociale, mais le plus grand dans tout cela, c'est qu'ils venaient de découvrir le Messie. Parce que Jésus se révèle avec des signes, des miracles et des prodiges. C'est tellement important.
J'aimerais qu'on puisse prier pour ces personnes qui sont aveugles ou qui sont en train de perdre la vue.
Oui.
Si tu veux bien, j'ai à cœur de faire ça et je crois que Dieu va se glorifier.
Amen.
Que ça puisse glorifier Amen. Jésus, ce qui va se passer maintenant. Père, je te remercie pour ta puissance. Oui. Que cette personne qui écoute maintenant, tu es aveugle, en train de perdre la vue, et le Seigneur veut te guérir. Au nom de Jésus-Christ, maintenant, nous déclarons une guérison complète. Que tes yeux s'ouvrent maintenant. Tout blocage, tout problème ou toute parole de malédiction qui t'a rendu aveugle puisse maintenant être sans effet. Nous déclarons la puissance de Dieu sur toi. Glorieux Jésus-Christ, merci.
Oui, quelle que soit la cause de cette cécité, que ce soit à la suite d'un accident, d'une erreur médicale, d'une infection ou alors d'un âge avancé, peut-être pour quelqu'un d'un esprit, d'un mauvais esprit, quelle que soit la nature, voulant déclarer, proclamer qu'à la croix, Jésus a pris nos maladies et il a pris les maladies de toute nature. Alors nous voulons commander en son nom aux aveugles maintenant de recouvrer la vue. Aveugles, que vos yeux s'ouvrent au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, que tu rendes toutes les capacités visuel à ceux qui nous écoutent, pose tes mains maintenant et que plusieurs puissent le vérifier en observant autour d'eux, en regardant peut-être la couleur de vos vêtements, en regardant la couleur du décor du studio sur l'écran de cet ordinateur, de cette télévision, que vous puissiez maintenant découvrir une augmentation de ces couleurs, que vous puissiez découvrir que le Seigneur pose ses mains et il restaure pleinement, il vous rend les totales capacités visuelles dont vous avez besoin. Oui, que vos yeux s'ouvrent.
Alléluia.
Il a dit, guérissez les malades. Tu nous as demandé, Seigneur, de guérir les malades, et c'est en ton nom que nous proclamons cette parole et nous te prions vraiment de révéler Jésus en ouvrant les yeux des aveugles aujourd'hui. Glorifie-toi, Seigneur, partout où cette émission va parcourir le monde, dans les villages, les plus reculés de certains pays. Seigneur, là où il y a des connexions Internet, là où il y a des accès à la télévision satellitaire, Seigneur, partout, Seigneur, que cette parole, Seigneur, puisse apporter la guérison et que ton onction puisse accompagner ta parole. Merci, Père, au nom de Jésus. Amen.
Amen. Il y a une personne qui est devenue aveugle à cause d'un coup énorme sur la tête. Je ne sais pas si c'était étant bébé. Maintenant, nous proclamons la gloire de Dieu sur vous, la puissance de Jésus-Christ. Alléluia, il est tellement plein de compassion pour vous. Ses compassions sont grandes pour vous maintenant. Il vous rétablit, il vous rétablit, il vous donne la force, soyez guéris. Alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia, merci Seigneur. Alors, On veut parler de vision, de destinée.
Oui. L'Église a tellement besoin que ses yeux s'ouvrent. Hmm. Je ne savais pas que tu allais démarrer cette émission par ces témoignages touchant aussi au domaine de la cécité. Mais j'étais en Bretagne il y a quelques mois dans une assemblée. On venait de terminer la réunion et puis une dame était arrivée un peu en retard. Et c'était une personne toute nouvelle. Et les chants sont projetés en vidéo sur l'écran. Et puis là, tout le monde, les gens sont séparés pour rentrer chez eux. Nous étions encore une dizaine à rester dans le hall d'entrée, à discuter ensemble. Et cette dame était en train de partir. Et puis elle vient, elle me salue, elle me remercie pour la prédication. Elle me dit, mais vraiment, c'est particulier chez vous, ça marche. Elle dit, parce que vous savez, j'ai vraiment une très mauvaise vue. Mais à mesure que la réunion se déroulait, bien, je constate que je vois tout nettement. Et puis la dame nous a remerciés, nous a dit qu'elle reviendrait. Et puis elle est partie en s'esquivant. Et on était tous là, 10 personnes à nous regarder. Et je remarquais que les quelques chrétiens qui étaient là étaient un peu pantois, un peu maladroits, ne savaient pas trop quoi faire avec ce témoignage qu'on venait de recevoir. Mais finalement, nous avions une personne qui avait des problèmes au niveau de sa vision. Et cette vision était en train d'être restaurée. Mmh. Il fait des miracles encore aujourd'hui. Et il faut que nos yeux s'ouvrent sur cette réalité d'un Christ qui fait encore des miracles. J'aime beaucoup cette histoire d'un explorateur. Ça date de 1914, un homme qui s'appelle Ernest Shackleton, qui un jour décide de monter toute une expédition pour aller explorer le pôle Sud. Alors il va réserver un navire qui s'appelle l'Endurance. Et avec ce navire, il va prendre le cap donc de l'hémisphère sud. Il va partir vers le pôle sud. Et arrivé dans le pôle sud, tout se passe bien jusqu'au moment où il commence à pénétrer à travers les glaces. Et après quelques centaines de miles, malheureusement, son navire se trouve coincé avec tout l'équipage à bord. Dans de telles situations, que faut-il faire? Tout le monde va mourir, tout le monde va périr, parce qu'ils sont maintenant prisonniers des glaces. Et il ne reste plus qu'un léger filet d'eau qui permettrait simplement le passage d'une barque. Alors il décide de mettre une barque à la mer. Tout le monde reste sur la banquise et tout le monde va devoir survivre avec les stocks de vivres qui sont à l'intérieur du navire. Et Ernest Shackleton, avec quelques hommes, décide de partir et de faire demi-tour simplement avec une barque. Cet homme avait une vision. Cet homme était animé d'une véritable vision. La vision ne peut naître que d'une personne, ne peut se manifester que chez une personne qui est consciente pleinement de sa destinée. Dieu a une destinée, nous rêvons tous d'une destinée et en Jésus-Christ, il y a une destinée pour chacun d'entre nous. Et Dieu désire maximiser chez chacun d'entre nous cette conscience, cette pleine conscience de cette destinée au travers d'un Dieu qui est en permanence 24 heures sur 24 avec nous. Et il désire pour cela que nous libérions notre vie, que nous libérions notre vie chrétienne pour entrer pleinement. Mais pour cela, nous devons saisir aussi toutes les opportunités divines que Dieu place devant nous. Comme dit Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. La vie est faite de défis, la vie est faite de challenges, et nous ne pourrons pas relever ces défis et faire face à tous ces challenges sans l'aide du Saint-Esprit, sans cette vision qui provient de cette destinée. Des défis qui touchent aux études, des défis qui touchent à la famille, au travail, à la santé, à certaines relations, à la vie affective, au service, voire au ministère. Nous sommes face à tous ces défis. Et sans vision, nous ne pouvons pas relever ces défis. Et c'est le travail du Saint-Esprit que de nous donner justement cette mentalité qui va nous permettre de relever ces différents défis. Et je pense à ces deux soldats de Dieu, ces deux vaillants guerriers, Josué et Caleb, lorsqu'il est question d'aller explorer le pays promis. Une dizaine d'espions dans toute cette équipe commencent à prendre peur face aux géants qu'ils ont vus, mais les hommes, Josué et Caleb, eux, sont convaincus qu'il y a vraiment une destinée dans ce pays promis. Et ils n'ont pas peur, au contraire, ils sont animés d'un autre esprit. Et dans Nombre, chapitre 14, verset 24, l'Éternel souligne l'excellence de leur vision, l'excellence de leur mentalité. Dieu dit, « Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit, et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé, et ses descendants le posséderont. » Nous voyons ici quelles sont les conséquences dans notre vie, mais aussi dans la vie de nos enfants, de la mentalité que nous allons manifester, que nous allons exprimer dans le cadre de notre vie chrétienne. Si notre mentalité est une mentalité qui est remplie de cette vision de foi, alors nous allons entrer dans notre pays promis, mais nous allons aussi y faire entrer nos propres enfants.
Amen.
C'est une grâce et c'est une véritable espérance. Il n'y a pas d'espérance et de bonheur dans une vie chrétienne religieuse, une vie chrétienne statique, passive, une vie chrétienne qui est emprisonnée dans les traditions et la religiosité. Le Saint-Esprit veut nous animer de la mentalité du royaume de Dieu. Il veut nous communiquer une autre mentalité. Vous êtes animés, Josué et Caleb, d'un autre esprit. Et ce passage, cette conquête du pays de Canaan nous apprend plusieurs choses. Premièrement, ce que tu es détermine ce que tu vois. Et tous ceux qui ont eu peur ne voyaient que des géants dans le pays promis. Mais Josué et Caleb voyaient l'opportunité. Ils voyaient devant eux vraiment la possibilité de s'emparer de tout un pays où il y avait du lait, du miel, une nourriture en abondance, un pays où l'on pouvait s'installer, prendre possession du pays et y faire grandir ses enfants. Au Moyen Âge, il y avait deux hommes au pied d'une cathédrale. Et puis, un passant s'arrête et les regarde travailler. C'était deux tailleurs de pierre. Et le passant regarde ces deux hommes. Il voit l'immense édifice et la tâche immense qui se trouve devant eux, puisque on sait que ceux qui ont commencé les cathédrales n'ont jamais vu la fin de la construction de l'édifice. Et le passant questionne le premier, lui dit « Mais monsieur, qu'est-ce que vous faites ?» Et il le regarde, l'homme le regarde, l'ouvrier le regarde un peu avec dédain, et lui dit « Ah, ça se voit pas, je taille des pierres. » Et puis l'autre, il le questionne, il dit « Mais monsieur, qu'est-ce que vous faites, vous ?» Alors l'homme lui répond « Je construis une cathédrale. » Quelle est notre vision ? Notre destinée en Christ, la plénitude de notre destinée en Christ va déterminer notre vision. Ce que tu es détermine ce que tu vois. Et ce que tu vois détermine ensuite ce que tu fais. Les 10 espions ont été terrorisés alors que Josué et Caleb firent taire le peuple. Les 10 espions ont commencé à semer la crainte au sein du peuple. Ils ont commencé à répandre le bruit qu'il y avait des géants. Mais pour Josué et Caleb, pour eux qui étaient de vaillants guerriers, le fait que ces hommes soient des géants, c'était un avantage. Ils étaient sûrs au moins de ne pas les rater. Mais en même temps, ils voyaient au-delà. Ils voyaient au-delà des géants. Ils voyaient l'immensité du pays qui se trouvait juste en face d'eux. Il y a quelques années, je me trouvais dans un déjeuner en Afrique. C'était un déjeuner d'hommes d'affaires, de ministres, de personnes engagées dans les plus hautes sphères de ce pays. Et il y avait là le Premier ministre. Il y avait cette femme qui était engagée dans le ministère de l'Éducation. Et au cours du petit déjeuner, moi, j'étais simplement invité à venir et prier, mais pas particulièrement à m'exprimer. Et puis, la ministre de l'Éducation nationale a pris la parole et tout à coup, elle s'est mise à pleurer devant tous les autres ministres et le Premier ministre qui était là. On était un peu embarrassés. Cette femme commence à dire... Je suis complètement découragé, j'ai le sentiment de ne servir à rien, je ne vois pas ce que je fais dans ce ministère, je ne vois aucun résultat, il n'y a rien qui marche. Et le Premier ministre, tout à coup, s'est trouvé face à cette femme qui était en train de répandre son cœur et il était vraiment embarrassé. Et il a tourné immédiatement son regard vers moi, cherchant de l'aide de mon côté. Et j'ai compris qu'il avait besoin d'un coup de main, du coup de main d'un prédicateur. Alors, je me suis tourné vers cette dame. Et je lui ai dit, « Madame le ministre, ne perdez pas courage. Vous avez le sentiment de ne pas savoir où vous allez. Mais quand on ne sait pas où l'on va, il est important de se souvenir d'où l'on vient. » Et tout à coup, elle s'est souvenue d'où elle venait et ce que Dieu avait fait jusqu'à aujourd'hui avec sa vie. Et elle m'a souri, elle a séché ses larmes. Et le Premier ministre m'a dit, « Monsieur le pasteur, priez pour nous maintenant. » Elle avait retrouvé la vision des choses. Quand on sait d'où l'on vient, on peut savoir où l'on va. « Souvenez-vous, dit la Bible, d'où vous avez été tiré. » La vision de l'avenir prend sa source dans cette vision qui consiste à prendre conscience de ce que Jésus a fait concrètement pour nos vies. Et il y a ce moment crucial. Il y a ce momentum, ce moment où Jésus nous a rencontrés, il nous a pris dans la boue de nos péchés Et ce moment fut le point de départ d'une vie nouvelle, le point de départ de notre glorieuse destinée. Et à partir de ce moment précis, il nous a mis sur les rails qui nous entraînent dans toutes ces œuvres extraordinaires qu'il a préparées d'avance pour tous ceux qu'il aime. Alors il nous faut vraiment saisir cette destinée, saisir cet état d'esprit, cette mentalité qui était celle de Josué et Caleb. Pour cela, il nous faut prier. C'est important, la prière. La prière, la parole sont extrêmement importants et la vision de cette destinée nous permet d'échapper au statu quo. Le statu quo, c'est une paralysie spirituelle. Je connais tellement de chrétiens qui, malheureusement, se trouvent dans cette situation. Et j'aimerais leur dire que cette prise de conscience de la glorieuse destinée que Dieu a pour eux va les replacer sur la glorieuse trajectoire. Il est un Dieu de gloire. Il nous appelle à la célébration de sa gloire. Et j'aimerais prier pour vous, vous qui m'écoutez maintenant, là où vous êtes. Peut-être vous êtes dans une situation de statu quo. Vous êtes un peu comme Ernest Shackleton. Vous êtes prisonnier par les glaces, prisonnier par une situation, prisonnier peut-être par un échec, prisonnier par une situation d'église. Prisonnier peut-être parce que vous faites face à certains esprits religieux, conservateurs, traditionnalistes, qui vous empêchent de libérer pleinement la plénitude de votre ministère. Vous êtes prisonnier des glaces. Le froid de la religiosité, la glace de la religiosité est en train de se resserrer sur vous et paralyse le ministère que Dieu vous a donné parce qu'il a une puissante destinée pour vous. Alors, comme Ernest Shackleton, il a mis la barque à la mer, il a fait machine arrière, il est allé chercher du secours et quelques mois plus tard, à l'horizon, ils ont commencé, tous ceux qui étaient sur le navire, ils ont commencé à percevoir Ernest Shackleton, qui était à la tête d'un nouveau navire qui venait à leur secours. Et Ernest Shackleton leur disait, « J'arrive, je suis revenu pour vous sauver, pour vous délivrer. Jésus est venu sur la terre, il est mort sur la croix pour nos péchés. Il a emprunté ce chemin de cette faible croix en bois. On l'a mis dans un tombeau, mais le troisième jour, il est ressuscité. Il est vivant pour l'éternité. C'est lui qui vient nous secourir. C'est lui qui vient nous délivrer. C'est lui qui vient nous libérer de l'emprise des glaces pour nous faire entrer dans le pays promis qu'il nous appelle à explorer et à conquérir. Non pas un pays de glace, non pas un enfer de glace, mais un pays promis où il y a du lait, du miel. Entrez pleinement dans cette destinée que Dieu a pour vous. Il y a des raisins, il y a des grappes de raisins, il y a du miel, il y a du lait. C'est un pays d'abondance. Et Dieu a prévu cela pour ton service. Dieu a prévu cela pour ta famille. Dieu a prévu cela pour tes affaires. Dieu a prévu cela pour ta santé. Dieu a prévu cela pour ton éternité. Ne laisse jamais plus la glace t'emprisonner. Ne laisse plus jamais la glace faire de toi un prisonnier, mais par la persévérance et par l'endurance de la foi, entre dans le pays que Dieu te donne. Au nom de Jésus. Amen.
Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et il y a un passage dans 1 Roi au chapitre 3 que je voulais partager. Et justement, quand on parle de vision, de destinée, Salomon a dit à Dieu, « Mon Dieu, c'est toi qui m'as établi ton serviteur pour être roi à la place de mon père David. » Et il dit, « Moi, je ne suis qu'un petit jeune homme, je ne sais pas gouverner. » Et c'est vrai qu'on peut avoir cette vision de nous-mêmes qui parfois est juste dans la réalité. Nous ne sommes rien sans lui. Et il faut que ce soit Christ qui puisse prendre le contrôle et la place. On en a parlé hier de l'abandon. Il dit, ton serviteur est au milieu de ton peuple, celui que tu as choisi. Peuple nombreux qui ne peut être ni évalué ni compté à cause de son grand nombre. Accorde donc à ton serviteur un cœur attentif pour gouverner ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait gouverner ton peuple, ce peuple si important ? Cette demande formulée par Salomon plut au Seigneur et il lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, que tu ne demandes pas pour toi une longue vie, que tu ne demandes pas pour toi la richesse, que tu ne demandes pas la mort de tes ennemis, mais puisque tu demandes pour toi de l'intelligence afin d'être attentif au droit, voici j'agirai selon ta parole, encore selon ta vision, selon ton désir. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu avant toi et qu'il ne surgira après toi personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, aussi bien la richesse que la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun homme parmi les rois qui soit semblable à toi. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est une parole pour plusieurs personnes par rapport à la façon dont vous vous percevez. Et c'est vrai qu'on peut se voir dans nos lacunes et c'est vrai qu'il faut s'humilier sous la puissante main de Dieu, reconnaître nos faiblesses, notre incapacité de servir Dieu par nous-mêmes, de vivre par nous-mêmes. On a tellement besoin du Seigneur.
C'est des vases fragiles.
Oui, nous sommes vraiment ces vases fragiles et on a tellement besoin de lui. Mais dans ce besoin, ne pas rester à ne rien faire, comme tu le disais, comme tu le partageais, mais plutôt demander au Seigneur, Seigneur, donne-moi ce dont j'ai besoin pour pouvoir avancer. Donne-moi la force, donne-moi la sagesse, donne-moi l'intelligence, donne-moi les capacités, donne-moi les dons. Et je crois que si on fait ce genre de prière avec un bon cœur, pas demander, Seigneur, fais de moi un millionnaire, un milliardaire. Non, non, fais de moi, Seigneur, un homme qui accomplit ta volonté, une femme qui accomplit ta volonté. Père, c'est ce que nous voulons prier ensemble comme une prière de consécration pour cette semaine où tu nous as parlé de destinée, de vision. Nous voulons avoir ta vision. Et c'est vrai que nous percevons nos faiblesses, les difficultés de la chair, mais nous percevons davantage la puissance du Saint-Esprit libérateur, du glorieux conquérant qui va en vainqueur et pour vaincre. Et Père, c'est ce que nous déclarons sur ton peuple. Sur ceux qui prient avec nous maintenant et qui sont dans certaines faiblesses. Il y a une femme qui est là, vous êtes dans votre maison, à côté de votre cuisine, et vous êtes découragée, tremblante, vous vacillez à l'intérieur de vous et vous dites, mais jusqu'à quand? Et le Seigneur aujourd'hui, il vous apporte une parole de réconciliation, comme cet ange dans l'Ancien Testament qui est venu et qui est venu apaiser le cœur de cette personne. Et le Seigneur maintenant vous apaise. Il vient sur vous maintenant vous apaiser. Alléluia, soyez apaisés, soyez en paix par la puissance de Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Je vais te laisser la possibilité de parler quelques instants encore, peut-être si tu as une parole pour terminer.
Oui, dira à ceux qui nous écoutent, ce que tu es détermine ce que tu fais. Ce que tu fais va déterminer le fruit que tu vas porter. Et le fruit que tu vas porter va là déterminer ton influence. Et c'est nécessaire d'avoir cette vision parce que nous sommes appelés à être le leader de nous-mêmes. Mais lorsque nous développons nous-mêmes, nous devenons aussi les leaders des autres. Et nous pouvons aller beaucoup plus loin. La destinée que Dieu nous donne fait de nous de véritables disciples, mais elle fait aussi de nous de véritables leaders. Et je vous encourage non seulement à vous développer vous-même, mais ensuite à développer les autres.
Amen. Gloire à Dieu. Merci pour ces paroles. On te remercie d'avoir été parmi nous.
Merci pour l'accueil.
Vraiment que le Seigneur puisse encore multiplier. 50 pays, il y en a encore quelques-uns qui ne sont pas faits.
Alors... Il y a encore de la tâche à faire. Hein.
Si vous êtes dans l'un de ces pays, eh bien, invitez-le.
Avec joie.
Un plaisir de
nous contacter.
Amen, de partager ce que le Seigneur lui a donné. Alors, on vous bénit dans le nom de Jésus-Christ. On continue à déclarer sur vous la présence du Saint-Esprit. Soyez une lumière dans ce monde, une bénédiction autour de vous. Soyez fidèles dans votre assemblée ce dimanche. Passez du bon temps avec vos frères, vos sœurs, à louer Dieu, à adorer le Seigneur, à être fidèles dans vos dîmes, dans vos offrandes et à partager la bonne nouvelle de l'Évangile autour de vous, dans votre propre famille. Aimez votre famille, ceux qui sont là dans votre famille, aimez-les. Gloire à Dieu. À bientôt dans Prières Inspirées.
Vous pouvez nous envoyer vos sujets de prière et vos témoignages à prière@enseignemoi.com. Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs de MCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Prières Inspirées sur emcitv.com.